Flux for Fever
au festival Entrevue à Belfort. Bonjour à tous. Alors, donc c'est bien toujours à Belfort, au Cinéma Pathé, que nous nous trouvons pour le deuxième jour d'émission que Flux4 consacre à la 30e édition du Festival Entrevue. Je suis toujours en compagnie d'Olivier Legras à la réalisation et de Florence Andokia. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et alors pour ce soir, nous allons avoir trois plateaux. Et pour le premier plateau, nous recevons Thomas Salvador. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors Thomas, vous êtes réalisateur, vous avez signé plusieurs courts-métrages qui ont été, pour certains, présentés ou primés à Belfort. Et vous avez signé également un long-métrage, Vincent n'a pas d'écailles, qui est sorti en février dernier. Vous êtes présent cette année au Festival Entrevue pour participer au Cadavre Exquis. Donc le Cadavre Exquis, c'est l'un des programmations proposées à l'occasion des 30 ans du Festival. Le Cadavre Exquis est l'occasion de solliciter 30 cinéastes qui ont fait l'histoire du Festival afin de jouer à ce jeu surréaliste. Donc le principe est le suivant, chaque cinéaste a reçu par email le dernier photogramme d'un film choisi par le joueur précédent. Le titre et l'auteur de ce film n'étaient pas communiqués et chaque cinéaste a donc choisi un autre film à partir de cette image. Alors tout d'abord, Thomas, est-ce que vous pouvez nous décrire l'image que vous avez reçue ?
Oui. Donc j'ai reçu un photogramme avec représentant un homme qui marche d'un pas qui semble calme vers un château fort en ruine avec une espèce de flash lumineux. Alors, on ne sait pas si c'est un éclair ou... c'est pas un éclair parce qu'il est très centré en fait, donc il y a quelque chose d'un peu surnaturel. Et en plus il y a des nuages très sombres. Et on ne sait pas trop voilà, si c'est la nuit, le jour, enfin, on sent qu'il y a un effet un peu surnaturel, quelque chose d'un peu magique. Voilà. Et le chemin sur lequel marche cet homme en costume est aussi illuminé, voilà pour la description de l'image.
Est-ce que vous saviez à quel film elle renvoyait cette image ?
Pas du tout. Donc, et puis j'ai pas du tout cherché à savoir non plus, j'ai essayé de jouer le jeu et et vraiment de suivre mon inspiration, c'est ce qui m'a été demandé en recevant cette image.
Et alors à quel film au pluriel potentiellement avez-vous pensé et quel film avez-vous finalement choisi et pourquoi ?
Donc j'ai pensé tout de suite vampire, parce que le type noir en costume, le château fort en ruine, et le fait qu'on sente que c'est un costume contemporain, c'est pas un costume d'époque. Donc j'ai pensé vampire, et bien que j'aime bien la série Twilight, d'autres films de vampires, non mais j'ai pensé à Blade, qui est une série B que j'aime beaucoup, qui est un de mes films un peu, je vais pas dire de chevet, ça serait un peu trop, mais voilà, qui est un film que j'ai découvert quand il est sorti, et c'était l'époque où bon, j'étais déjà cinéphile, mais où il y avait des films comme ça de flux. En l'occurrence, là, c'est un blockbuster qui a eu un budget plutôt conséquent, qui a eu une sortie mondiale et qui a eu plutôt du succès. Et je sentais que c'était différent et mieux que d'autres films qui étaient vendus de la même manière, en fait. Un peu comme quand j'ai découvert Predator de John McTiernan dans les années 90 aussi, ou 80. Tout le monde trouvait ça naze parce que c'était bien vu de trouver naze un film avec Schwarzenegger. Et moi, je trouvais que c'était vraiment bien. Et j'ai eu cet effet avec Blade. Donc c'est un film... vous voulez que j'en dise plus sur le film ou je parle trop là déjà, non ?
Non, allez-y.
Voilà, donc c'est un film tiré d'un manga, non d'un manga, d'un comics Marvel en fait. Donc c'est pas un héros très connu et c'est vraiment une voie parallèle de Marvel, il y a eu quelques héros comme ça. Donc jamais il y a eu d'album avec lui, les X-Men ou Spider-Man ou les Avengers ou... donc avec un héros d'un mec qui est mi-vampire, mi-homme et qui est black, donc ça vient vraiment des années 70 de ce qu'on appelait la blaxploitation, voilà tous ces films un peu de flux et commerciaux qui visaient un public, enfin des minorités noires afro-américaines. Voilà, et le film, moi, il me plaît parce que il y a quelque chose de très direct, de très finalement de très simple, et surtout il y a un truc très ludique dans la mise en scène. C'est-à-dire que on est déjà un petit peu avant le tout numérique, hein, on est quand même quelques années après Terminator 2, après Jurassic Park, tout ça, on s'est mis à numériser, à faire de la modélisation un peu numérique pour tous les effets, jusqu'à au début des années 2000 et 2010, il y a eu des films d'action où chaque mouvement était fait en numérique. C'est-à-dire que même des cascades, dans Daredevil, qui est un très mauvais film de super-héros, enfin, je ne veux pas dire qu'il est très mauvais, mais je n'aime pas du tout, Ben Affleck, je pense qu'il a quasiment jamais mis le costume. Et quand il saute d'une table ou par-dessus une voiture, ils n'ont pas été foutus de prendre des cascadeurs ou de mettre des trampolines ou de faire des choses un peu pour créer de la dynamique, du réel. Et tout est fait en numérique dans le film, et ça crée une déréalisation, et surtout ça empêche vraiment l'empathie, je trouve. On perd le personnage et on perd l'enjeu pour lui. Et dans Blade, il se trouve que Wesley Snipes, acteur que j'aime beaucoup, dont je pourrais parler après, c'est un vrai fan d'arts martiaux, il sait très bien bouger, il a un vrai charisme. Et voilà, donc il y a cette inventivité propre à la série B, où avec des câblages, des trampolines, avec des doublures, parfois ils utilisent plusieurs acteurs pour créer de la vitesse, une doublure plus Wesley Snipes, le temps qu'il se relève c'est un autre mec de dos, et puis vraiment de l'inventivité liée à la série B en fait. Et donc ça crée quelque chose de très simple, de très proche des personnages. Et puis il y a beaucoup d'inventions, c'est-à-dire que le réalisateur Stephen Norrington, qui vient des effets spéciaux, il a bossé sur Alien.
Sur Alien notamment.
Ouais, voilà. Il a fait trois ou quatre longs métrages, mais il y a beaucoup d'inventions, et notamment cette séquence d'ouverture du film dans la boîte de nuit. Enfin, je vais la décrire, je dévoile rien. C'est un truc qu'on découvre très vite. C'est quand même un truc très très beau, où il y a une femme qui amène un homme dans une boîte de nuit, un peu une espèce de rave, dans un abattoir. On sent que c'est quelque chose d'interdit. Et il y a une espèce de tension qui est assez belle. Et en fait, c'est un repère de vampires. Et à un moment, il y a le DJ qui se met à hurler. Et du système anti-incendie, en fait, donc toutes les rampes qui balancent de l'eau normalement, il y a un déluge de sang, en fait. Et donc tout ça sur une espèce de techno lancinante, mixée très forte, et des gens qui dansent au ralenti, d'un coup tout le monde se retrouve rouge de sang, avec juste le blanc des yeux en fait qui sort sur les gros plans des visages, et il y a un truc très, très graphique, très puissant, et rien que pour ça c'est un film que j'aime.
Florence,
vous parlez des mouvements du corps de l'acteur principal. J'ai lu comme ça dans votre biographie que vous avez été alpiniste et aussi acrobate. Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide aussi dans votre façon de faire du cinéma, et notamment pour le personnage principal de Vincent Napadécaille? Est-ce que ça a compté, ça, cette attention au corps?
Alors, je pense que ça a compté, pas de manière consciente, mais il se trouve que, et en tant que spectateur, j'ai toujours été attiré par les films comme ça, où il y a un enjeu physique. Alors il y a des cinéastes de la parole que j'aime beaucoup. Moi, je suis un fan de Romer, et puis de certaines comédies américaines où on parle beaucoup, mais j'ai quand même toujours un très fort penchant pour les films où il y a de la danse, du mouvement, je vais pas dire des combats, mais où il y a un enjeu physique comme ça, d'un corps qui se mêle à un environnement. Donc les films burlesques, par exemple Tati, Buster Keaton bien sûr, et même Jim Carrey dans ses mauvais films, il y a quelque chose que je trouve, même dans les plus mauvais films, et il en a fait quelques-uns, il y a toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est aussi peut-être parce que j'ai aimé voir ça, et que moi j'ai eu des pratiques dans ma vie d'enfant et de physique. Donc sans avoir de formation, mais j'ai fait un peu pas mal de choses. Après, j'ai eu une vraie passion pour l'alpinisme et l'escalade. J'ai longtemps voulu être guide d'haute montagne. Enfin, j'hésitais entre faire du cinéma et être guide d'haute montagne. Et après, ça se retrouve dans mes films. Mais pas, je me dis pas, tiens, je vais faire un film avec un travail physique, parce que mes envies de film sont toujours liées à cette dimension. Donc ça se fait de manière naturelle. Mais c'est un tout en fait. Il y a pas.
Et alors, vous êtes parti de quoi pour Vincent Napadécaille, pour construire ce personnage?
Je suis parti du J'ai pas pensé au personnage au début. Je suis parti d'une situation qui était... Enfin, j'ai eu une image comme ça d'un type qui descendait un torrent de montagne en maillot de bain. Et en fait, je pense que la sensation que j'ai eue dans cette image, c'était déjà le décalage. C'est-à-dire qu'il fait rien d'extraordinaire, rien d'interdit, mais il fait quelque chose que normalement on fait pas. Et il était, voilà, il était. Et c'est de là qu'est venu en fait. Vraiment déjà presque l'idée de la différence, du décalage. Et après, sans doute pour ce dont je viens de parler, très vite, il était évident que ce type-là, en maillot de bain, un peu en marge, tout ça, ferait des choses un peu comme ça extraordinaires. Parce que quand je fais un film, j'ai envie d'expérimenter des choses. Et je sais pas, de fabriquer des machines, d'inventer des systèmes, de faire des choses un peu folles. Enfin, qui semblent folles, mais qu'on arrive en travaillant, en réfléchissant un peu, à rendre réaliste. Donc très vite, j'ai eu toutes ces... En tête, toutes ces images de nage rapide, de saut, de dauphin, et j'ai fait vraiment le film parce que j'étais excité à l'idée de trouver des solutions pour rendre réaliste tout ça, en fait.
Mais alors, donc, juste pour vous préciser, Vincent Nadeka, c'est l'histoire donc, de Vincent, un jeune homme mutique et assez réservé, en fait, qui se retrouve doué d'un super pouvoir. Dès qu'il est mouillé, sa force est décuplée. Et voilà, et donc il va se retrouver, malgré lui, confronté aussi aux conséquences de cette force surhumaine. Mais donc pour revenir justement au lien avec Blade, parce que même si ces deux films, Blade et Vincent n'a pas d'écaille, n'ont aucun rapport en termes d'esthétique...
De budget.
ou de budget, de distribution. On est bien toujours aussi sur un film de super-héros.
C'est vrai, enfin, j'avais même pas pensé en choisissant Blade, parce que d'ailleurs pour moi, Vincent n'a pas des cas, il n'est pas un film super-héros, parce que c'est un film français, et que je pense...
En même temps, je vous coupe, ouais. Mais dans la bande-annonce du film, bon, même si la phrase est ironique, il est mis le premier film de super-héros français garanti 100% sans effet numérique. Ouais.
Oui, mais ça c'est du marketing. Il y a ce qu'on dit pour faire venir les gens dans la salle, il y a ce qu'est le film. Non mais... Évidemment, ça a à voir avec ça. Mais d'un point de vue strict, je dirais que Vincent n'est pas un super-héros. Alors peut-être que le film est un film de super-héros, est un film français de super-héros, mais le personnage n'est pas un super-héros. Parce que se pose pas pour lui la question de la mission, de la responsabilité, du devoir. On est vraiment très loin de Spider-Man et de la fameuse phrase « à grand pouvoir, grande responsabilité ». Parce que pour moi, il y a que dans un film hollywoodien de super-héros, qu'un type qui sort de l'adolescence, de la puberté, enfin, ce qui n'est pas le cas de Vincent, mais mettons pour Spider-Man, il n'y a que dans un film de ce genre que 4 jours après, enfin même le lendemain de cette découverte, il se fabrique un costume. Et je pense que si on est réaliste, et je pense que faire un film français comme ça, ça a appelé une forme de réalisme, je pense que le héros, il est... Sauf s'il est vraiment né sous une bonne étoile et que son éducation a fait qu'il a une assurance hallucinante et tout, on est beaucoup plus sur le registre de la gêne et du comment vivre avec ça, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je dois en avoir honte, est-ce que c'est une malédiction, est-ce que c'est autour de ça que tourne le film en fait. Et donc je pense même que dans mon film, de le voir... fabriquer un costume ou de patrouiller dans les lacs pour sauver les noyés, enfin il y aurait un truc de ridicule en fait, alors que c'est pas du tout ridicule dans les films américains. Mais c'est vrai que je crois que j'adore les gens, les héros en fait qui sauvent d'autres personnes. Et c'est un truc qui m'a toujours touché, est-ce que c'est lié à mon histoire, est-ce que ça vient de mon nom de famille, Salvador, ça veut dire le sauveur en espagnol. Moi, même dans un mauvais film, un téléfilm français ou une publicité, quand il y a quelqu'un qui aide quelqu'un et quand, à plus forte raison, il le sauve de manière un peu spectaculaire, moi, c'est la chose qui me bouleverse le plus au cinéma. Et d'ailleurs, dans Vincent...
Et de fait, Vincent sauve son collègue de travail en cassant la voiture, en jetant une bétonnière sur la voiture.
Ouais. Et ça, je tenais vraiment à ce qui... Mais il y en avait même plus, après, pour plein de raisons. On en a coupé, mais il le sauvait deux fois, en fait. Une fois dans la... Enfin, là, et puis une fois dans la poursuite. Mais et d'ailleurs, là, dans le film que j'écris en ce moment, il y a aussi... les héros vont sauver quelqu'un. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait.
Alors, vous étiez déjà venu à entrevue pour présenter des films, mais vous êtes également venu en tant que membre du jury en 2004. Alors, en quoi est-ce que le fait justement de participer à un jury où on va être amené à juger le travail de pairs et de personnes aussi qui présentent leur premier film, ça peut nourrir le travail de réalisateur?
De voir des films, ça nourrit le travail de réalisateur. Moi, je crois pas du tout peut-être je vais me faire des ennemis en disant ça, mais les réalisateurs qui voient pas du tout de films et qui disent c'est pour préserver mon univers mental. Mais non, enfin, je pense qu'il n'y a pas de magie, on ne naît pas cinéaste. On a envie d'être cinéaste parce qu'on est d'abord spectateur. Enfin, pour moi, il y a une hiérarchie. Enfin, et d'ailleurs. Donc c'est de voir des films qui donnent envie de faire des films. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je vis et que je pratique. Donc, je continue à voir beaucoup de films. Et le festival et le jury, c'est l'occasion de voir des films qu'on n'irait pas forcément voir non plus. Donc, on n'a pas le choix. Parce que, qu'on le veuille ou non, même quand on est curieux, on va voir les films qu'on a envie de voir. C'est un peu une tautologie, ce que je dis, mais. Il y a un type de film qu'on a, voilà, on a chacun passé un certain âge, il y a des choses où on dit non, ça me motive moyen, et puis il y a des choses qu'on a envie de voir. Donc dans les festivals, on n'a pas le choix, et je trouve ça super bien, parce qu'on va voir 8, 12 films selon la taille du festival, et donc ça, je trouve ça super, et après on en parle de manière bienveillante, avec d'autres personnes qui ont un rapport avec le cinéma. Et d'un coup, on se pose des questions de mise en scène. C'est aussi des questions qu'on... Moi, je vais beaucoup au cinéma seul, donc il y a beaucoup de films qui me traversent comme ça, mais dont je ne parle pas. Parce que avant de croiser quelqu'un qui l'ait vu ou qui l'aurait vu, il peut se passer du temps et puis on parle d'autre chose. Et c'est bien de parler des films. Voilà. Et donc dans un jury, on doit en parler. Et c'est un super exercice. De même que je gagne ma vie aussi en grande partie avec de la pédagogie. Donc je fais des interventions dans des collèges, dans des lycées. Et j'apprends beaucoup de choses aussi en parlant de films d'autres aussi, parce que je travaille parfois sur des films qui sont au programme, des dispositifs genre lycéens et apprentis au cinéma, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup appris ces dernières années aussi en parlant d'autres films à des lycéens. Parce qu'on parle vraiment d'une autre manière qu'entre copains, ou comme je me répète, ou comme quand on n'en parle pas du tout.
Florence.
Alors, est-ce que depuis que vous êtes là, il y a des films éventuellement qui vous ont marqué, qui ont retenu votre attention ?
Alors, je suis pas là depuis longtemps. J'ai pas encore vu de film de compétition. En fait,
ça peut être autre chose.
La Blade, mais c'est passé hier. J'ai vu les courts-métrages de Bong Joon-ho, cinéaste coréen que j'aime beaucoup. Et je voulais à tout prix voir. Je suis venu tôt exprès d'ailleurs pour ça, pour voir son premier long métrage, Barking Dogs Never Bite. Mais il y a eu un problème technique, donc je le verrai une prochaine fois. Et j'ai vu. J'ai pas encore vu. J'ai vu le film de Bruno Dumont, Camille Claudel. Je connais plus le titre exact.
Et quand vous dites. Je vais me faire des ennemis en disant que moi je pense qu'on devient cinéaste en voyant des films parce que ça se construit. Est-ce que, donc vous voyez des films, est-ce que vous pensez pas que les gens qui au contraire ne voient pas de films, c'est aussi une façon de dire qu'ils vont chercher une inspiration ailleurs qu'au sein du cinéma? Je pense par exemple, je sais pas, ça pourrait être l'art contemporain, ça pourrait être Piala qui avait ce désir face à la peinture par exemple, ou ça pourrait être... Est-ce que vous êtes aussi appelé comme ça très fortement par d'autres domaines, qu'ils soient artistiques ou non d'ailleurs?
Ah oui, moi je m'inspire de beaucoup d'autres choses. Mais à un moment, c'est la question du travail. C'est pas que la question de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'inspiration pour faire des films dans d'autres disciplines, mais faire des films, c'est aussi avoir une pratique de la grammaire, de la technique. Et il y a presque une prétention enfin je sais pas, pas une prétention, mais je sais pas, quand on a vu 1000 films avec une séquence avec des gens qui discutent dans un bar, on l'a digéré, et le jour où on se retrouve à filmer des gens qui parlent dans un bar, il y a un inconscient, il y a un truc qui fait que il y a plein de choses qu'on va pas faire, on sera plus affûté. Mais c'est comme un mec qui ferait, enfin c'est tout bête, mais c'est le seul métier, le cinéma, dans lequel on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de connaître, de travailler. Et d'ailleurs, il y a malheureusement beaucoup de films qui se font aujourd'hui avec un casting et un pitch, et les gens, et tout le monde se fout de savoir qu'ils, les gens n'ont fait aucun court-métrage, ils savent rien, mais ils font les films. Et il n'y a que le cinéma, à ma connaissance, peut-être un peu la littérature, mais il n'y a pas d'architecte qui se dit ah, moi je m'intéresse, non, je regarde rien, je m'intéresse à rien, je veux créer un immeuble. Il n'y a pas de compositeur non plus. Il faut travailler, il faut connaître. Et les compositeurs, ils écoutent de la musique et au moins connaissent une technique. Alors qu'en cinéma, on a l'impression, et on peut faire des films sans connaître rien du tout au cinéma, mais ça ne fait pas forcément des bons films. Mais donc de pas voir beaucoup de films, de pas. C'est se priver de l'apprentissage, parce que les cinéastes, ils font, dans le meilleur des cas, un film tous les 2 ans. Donc si notre pratique, si on veut évoluer et faire des films de mieux en mieux, et comme un musicien fait ses gammes tous les jours, si c'est tous les 2 ans en faisant un long métrage, dans le meilleur des cas, on progresse pas, en fait. Donc faut progresser par d'autres biais, donc je pense en voyant des films.
Quand vous dites que être cinéphile, ça peut rendre cinéaste d'une certaine façon, parce que pour moi, comme ça, spontanément, c'est pas du tout évident que, en regardant des films, on comprenne quelque chose de la grammaire du cinéma et encore moins de la technique.
Ben, je pense que si. Je pense que la grammaire, bien sûr, la technique, non, mais la technique, il y a les techniciens qui prennent ça en charge. Après, je pense, plus on connaît, mieux c'est. Parce qu'on sait ce que font les uns, les autres, ce qu'on peut obtenir ou pas, on gagne du temps. Et le temps, c'est toujours ce qui manque sur les tournages. Mais par contre, la grammaire, on l'a de manière induite. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui parle pas une langue, même si on lui apprend pas, en entendant des gens parler, il va finir par savoir parler, donc ça fonctionne de la même manière. Les raccords, moi je connais pas, j'ai pas fait d'études, les histoires d'angles, je sais pas, de champ contre champ, faut pas franchir l'angle, je trouve même plus le nom, mais de manière,
je peux pas vous aider.
Mais de manière induite, ça me semble évident que si on fait un raccord dans un champ contre champ à 180 degrés, ben on va avoir l'impression d'une substitution de personnage et non pas d'un regard. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on sent en les ayant vécues. De même que le rapport au temps, une ellipse, comment ça. Si on a vu 1000 films avec des ellipses, à un moment, dans l'écriture, naturellement, on va savoir que faire une ellipse, ça peut produire telle sensation. Enfin, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut inventer et imaginer théoriquement. Si on se dit, alors voilà, moi je veux que d'un coup, on sente que. Dans la routine, il y a une cassure, et donc je vais faire une ellipse. Enfin, il faut l'avoir senti un peu, comme un improvisateur qui fait de la musique. Il improvise, certes, mais il a fait des gammes, il a écouté plein de types de musique qu'il a assimilé pour pouvoir affiner son art.
Alors, vous disiez justement que voir des films, c'est aussi ce qui vous donne envie de faire des films. Mmh. Et vous nous dites que vous travaillez sur un prochain film. Quels sont les films qui ont pu ou qui peuvent être à l'origine du projet sur lequel vous travaillez actuellement?
Alors, c'est compliqué comme question. C'est beaucoup de choses. En fait, je vois des films très variés. Après, il se trouve que mon premier film, c'est un peu un film super-héros, et là, le film que j'écris, c'est un film noir. Et je pense que ma culture, en tout cas, mon éducation de cinéma, elle s'est fait beaucoup, je veux dire, avec le cinéma japonais et le cinéma classique hollywoodien. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup dans les films de genre qu'on a vu des corps en action, en mouvement. Hein, je pense au western, moi, qui est vraiment un genre que j'adore. J'ai vu beaucoup de westerns, des comédies musicales. Donc je pense que c'est un ensemble de films, en fait, le cinéma asiatique aussi, donc j'ai parlé du cinéma japonais, mais dans le cinéma asiatique, il y a une importance donnée aussi au corps et au mouvement. Je pense au cinéma de Hong Kong, les films de Kung Fu, ou de Tsui Hark, de John Woo, de John Ito, tout ça. Enfin, et même, et puis les films thaïlandais, taïwanais, il y a toujours quelque chose sur l'incarnation et sur le corps comme véhicule d'émotion, de dynamique, de rythme, tout ça qui est très fort, beaucoup plus que dans le cinéma français. Donc je pense que c'est peut-être tous ces films-là qui font que j'ai envie de faire le prochain film, où il y aura beaucoup de mouvements aussi, mais une intrigue un peu policière, enfin quelque chose en rapport avec le genre, ouais.
Et alors vous nous disiez qu'il faut au minimum 2 ans pour bâtir un film, donc là vous en êtes où?
Alors je vais juste préciser que entre le début de l'écriture et le tournage de Vincent Napadeka, il y a eu 7 ans, et 8 ans avec la sortie. Alors j'ai pas fait que ça, mais quand même ça a été quasi un plein temps pour écrire, puis patienter, le financement, trouver une télé qui dit oui, qui dit non, et puis qui machin, et qui... Enfin tout ça c'est long. Après la fabrication du film a duré 1 an, et après j'ai fait 1 an de promotion du film. Donc le film est sorti en février dernier. Non, mais je raconte juste le parcours d'un film. Ma première projection publique c'était en septembre 2014. Et là j'ai été dans des festivals jusque là il n'y a pas longtemps en fait. Et donc là j'en suis au début de l'écriture. Donc je me suis promis d'écrire hyper vite. Et de tourner bientôt, mais je sais pas, mettons, enfin je pense qu'au plus tôt on tendra, si on tourne dans 1 an c'est un exploit, ça semble très long, alors que le scénario pour l'instant il y a 5 pages, et ça semble long 1 an, mais entre le temps d'écriture et temps de financement, surtout que c'est un film d'auteur, un peu singulier, donc c'est pas les films qui se financent le plus facilement, même si Vincent Napadeka, il y a eu un peu de succès, etc. Donc peut-être ça va se passer hyper bien et c'est génial, mais peut-être on va mettre du temps, 1 an, 2 ans, et après selon les calendriers le film il va mettre du temps à sortir, faudra attendre le bon premier festival international pour, enfin, donc tout ça peut mettre un temps fou, mais moi je suis quelqu'un de très patient, passionné.
Oui, en même temps c'est vrai que Vincent Napadeka, il y a eu quand même un joli succès, enfin vous avez eu pas mal de presse nationale, vous avez été qualifié de grand espoir du jeune cinéma français, donc on peut espérer aussi que ce deuxième long métrage sera facilité.
J'espère, oui. Moi je suis toujours très méfiant et prudent, mais tout le monde me dit « Ah, mais ça va aller vite, tout ça », mais je sais que c'est... Il y a plein d'exemples, voilà, de gens pour qui le film a marché, mais que voilà, après on revient à la case départ, on dit alors le casting, c'est vous qui allez jouer, vous voulez pas prendre Guillaume Canet plutôt?
Oui, alors d'ailleurs, juste dernière question et après on va vous laisser partir. Pour votre, vous jouez dans Vincent n'a pas d'écaille, vous avez joué dans
mes courts-métrages.
Dans vos courts-métrages également. Apparemment, au début, c'était plus une façon de résoudre ce qui était un problème aussi de qui solliciter ou quel comédien trouver. Et petit à petit, vous trouvez aussi vraiment votre place en tant que comédien.
C'est vrai que maintenant, je peux presque dire que j'y prends un petit peu plaisir. Mais j'ai jamais eu l'envie d'être comédien. D'ailleurs, je ne me vis pas du tout comme comédien. Quand on me présente comme réalisateur, acteur, c'est toujours le mot acteur qui me gêne. Alors après, je suis un peu le malin parce que de fait, je suis acteur, vu qu'à partir du moment où on joue dans un film, on devient acteur. Et c'est vrai que j'ai toujours joué parce que c'était plus simple pour moi. Du fait que les films me ressemblent, que les personnages me ressemblent. Vincent, même s'il a des super pouvoirs, donc c'est simple, et il se trouve que j'ai ce parcours un peu comme ça, un peu acrobatique, et que je tenais vraiment à ce que ce soit le même acteur dans le film qui embrasse l'héroïne, travaille sur le chantier, et puis fasse des sauts de dauphin ou saute par-dessus des voitures. Donc c'était une forme d'évidence, même si j'ai fait quand même un gros casting d'acrobates et d'acteurs, parce que j'ai douté, je me suis dit pour mon premier long métrage ça va être compliqué de tout gérer. Au final je l'ai fait, et je pense que même si ça a été très dur le tournage, je pense que ça a été quand même malgré tout plus simple pour moi de tout faire.
Très bien, mais merci beaucoup Thomas Salvador d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Flux for Fever.
Fine pair, but they ain't nothing shaking.